Nathalie Ferrand-Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Avec le réseau Environnement France. On va recommencer. Nathalie Ferrand-Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Avec le réseau Environnement Santé, on va reparler des perturbateurs endocriniens qui sont finalement, entre guillemets, la star de notre émission, qui sont largement présentes dans pas mal d'anomalies que l'on peut constater avec des données scientifiques. Et aujourd'hui, on va parler de la précocité des règles, puisqu'une étude annonce que 80% des filles ont leurs règles avant 13 ans, ce qui est beaucoup plus tôt que ce qui se produisait auparavant, et un lien direct avec l'impact des perturbateurs endocriniens a été établi.
Oui, tout à fait. Dans la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, qui ont effectivement sorti une étude montrant que 80% des filles étaient réglées avant 13 ans désormais, et parmi 20% sont réglées dès le primaire. Donc c'est effectivement plus tôt que ce que nous avions, et surtout ce que remarquent les gynécologues et les médecins, c'est que plus ça va, plus c'est tôt. C'est-à-dire c'est pas simplement une avancée et puis ça s'arrête, c'est vraiment en permanence en fait, on voit que ça avance. Donc les parents s'en rendent compte souvent en fait par la poussée des seins chez des petites filles, notamment avant 8 ans. Donc avant 8 ans, ce n'est pas normal. Le développement se fait plus tard, autour de 11 ans, mais avant 9 ans, ce n'est pas normal. Donc il faut que ça alerte les parents. Et effectivement, la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale donc déclare qu'il est impossible de nier l'impact des perturbateurs endocriniens. Alors pourquoi l'impact des perturbateurs endocriniens? C'est parce que ces perturbateurs endocriniens agissent comme des hormones. Donc on en a souvent parlé dans notre émission. Et ils agissent notamment comme des œstrogènes. Or, le déclenchement de la puberté chez les petites filles, et donc après les règles, c'est un déclenchement qui est lié à un afflux en fait d'hormones d'œstrogènes. Donc on voit que quand ces œstrogènes sont présents en trop grande quantité et avant la date, ça déclenche effectivement la précocité de ces règles. On a remarqué aussi que ces règles apparaissent plus tôt chez les petites filles qui sont obèses. Or, on sait qu'au niveau des adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, il y a une fabrication par ces cellules graisseuses d'œstrogènes aussi. Donc on voit que tout ça se cumule. Alors on sait qu'il y a une origine développementale aux pathologies, à la maladie, à la santé, avec notamment la contamination dès la grossesse, contamination des fœtus donc par ces hormones, par ces perturbateurs endocriniens qui vont bouleverser le système hormonal. Ensuite, vous en avez une couche supplémentaire au moment de la petite enfance, donc avec les perturbateurs endocriniens qu'on rencontre absolument partout dans notre environnement. Donc que ça soit les plastiques, que ça soit les produits d'hygiène, d'entretien, l'alimentation, les pesticides, les ustensiles de cuisine, etc.
Et alors si on constate que les règles arrivent plus tôt finalement dans la vie d'une petite fille, est-ce que ça veut dire que la ménopause arrive plus tôt aussi et que donc tout le cycle de la vie est remis en question ?
Alors, c'est pas systématique, parce qu'en fait, la date de la ménopause dépend de la quantité d'ovocytes, c'est-à-dire de la quantité d'œufs que nous avons dès le départ. C'est-à-dire qu'une petite fille naît avec une quantité d'œufs définie, et ces cycles vont aller jusqu'à la fin du nombre de ces œufs, si vous voulez, c'est vraiment très synthétique. Alors, ce qu'on a remarqué par contre, c'est que les perturbateurs endocriniens entraînaient une diminution de cette réserve, en fait, d'ovocytes. Donc, on voit comment les choses s'additionnent. Par contre, le fait que ces règles arrivent plus tôt a une incidence très forte sur la taille et ensuite un impact sur le développement psychoaffectif. Donc sur la taille, parce qu'une fois passés les 6 mois après les premières règles, la petite fille ne grandit pratiquement plus de 1, 2, 3 cm, mais pas plus. C'est-à-dire que le pic de croissance se fait avant les premières règles. Donc plus la petite fille est réglée tôt, et plus sa taille sera petite en fait. Donc ça c'est un premier problème, et la deuxième difficulté c'est l'impact, parce qu'une petite fille en fait n'est pas mature avant 8 ans, donc joue encore à la poupée ou suce son pouce, et donc se retrouve avec un bouleversement physiologique et n'est psychologiquement et psychoaffectivement pas prête en fait à ce bouleversement. Donc on a des impacts importants aussi chez ces petites filles, hein, donc qui peuvent être réglées très tôt. On voit maintenant des petites filles qui sont réglées, comme je disais tout à l'heure, dès l'école primaire.
Alors, est-ce que ça a un impact aussi sur l'endométrie? Est-ce que ça a un impact aussi sur l'endométriose, sur tout ce qu'on entend en ce moment comme maladie qui touche aussi les femmes, les filles, hein?
Alors, l'endométriose, la cause majeure, ce sont effectivement les perturbateurs endocriniens. Après, par rapport aux règles précoces, ce sont deux phénomènes qui sont séparés, mais qui peuvent aussi se cumuler. C'est-à-dire que l'un ne semble pas, en tout cas, être la cause de l'autre. Par contre, ils peuvent se cumuler. Donc, l'autre difficulté que ça pose, et là, je m'adresse particulièrement aux enseignants, c'est toute la difficulté, en fait, de la honte de la petite fille, de la peur d'être tachée, des toilettes qui ne sont pas forcément adaptées, dans le sens où il n'y a pas assez de, comment dire, l'accès à des toilettes séparées n'est pas forcément correct. En fait, les toilettes en primaire ne sont pas forcément adaptées. On pense pas forcément à mettre une poubelle pour les protections périodiques, etc. Donc, on voit qu'il y a vraiment tout un tas d'éléments à repenser pour pouvoir s'adapter à ce phénomène. Mais surtout, il faut agir sur les causes. Parce que si on ne fait que s'occuper des conséquences en se disant, bon, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la fatalité. En fait, on va avoir ces phénomènes qui vont continuer à s'accentuer. Donc, il y a eu, je crois que la petite fille, la plus jeune qui a été réglée, avait 4 ans. Donc, c'est pas en France. Mais voilà, on voit qu'on a des anomalies qui se multiplient. Donc, c'est très important de pouvoir agir sur les causes.
Et alors, est-ce que cette étude, donc, elle fait part de cette augmentation du nombre de filles qui ont leurs règles beaucoup plus tôt? Est-ce qu'il y a une étude géographique aussi par rapport au lieu d'habitation de ces enfants? Est-ce qu'elles sont plutôt dans des territoires urbains, à la campagne? Est-ce que, suivant les pays ou les villes, hein, ou les régions, il peut y avoir des chiffres qui varient?
Alors, tout à fait, au niveau de la puberté précoce, Santé publique France avait fait des études dont nous avions parlé lors du colloque qui avait eu lieu en 2019 à l'Union à côté de Toulouse. Y aura-t-il encore des petits Occitans en 2040? Où effectivement on avait pointé que la région Midi-Pyrénées est la région sur le podium, j'allais dire, à propos de la puberté précoce. Là encore, on n'a pas d'études suffisante pour pouvoir comprendre pourquoi, en fait, ce phénomène. Donc, c'est vrai que Midi-Pyrénées est une région agricole, mais on a aussi Nouvelle-Aquitaine qui semble moins impactée. Donc, c'est très certainement comme toutes les situations multifactorielles. Et c'est là où il faudrait effectivement que les pouvoirs publics investissent de l'argent public sur ces recherches pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on puisse encore une fois agir sur les causes.
Et alors, en même temps, il y a eu une prise de conscience, il y a certains comportements qui ont changé, notamment dans les cantines, dans tout ce qui est l'environnement des enfants. Est-ce qu'on commence à bénéficier des fruits de ces changements, ou alors il va falloir un peu plus de temps pour qu'il y ait un impact finalement positif?
Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a effectivement des prises de conscience, des changements, mais ils ne sont pas à la hauteur à la fois de l'importance de la situation.
Voilà, c'est pas assez.
C'est finalement pas assez, et surtout ce n'est pas assez vite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate sur le plan scientifique, c'est une augmentation très très rapide, en fait, de ces phénomènes. Or là, le changement est trop lent et pas assez important. Et c'est pour ça que le réseau environnement santé tire la sonnette d'alarme en permanence pour dire il faut agir beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Parce que derrière chacun de ces chiffres, j'allais dire, on parle de statistiques, mais à chaque fois, ce sont quand même des vies. Ce sont des petites filles, ce sont des familles, ce sont des enseignants, ce sont tout un écosystème, j'allais dire, qui est impacté, des personnes qui sont impactées. Et c'est pour ça qu'il faut faire plus vite et plus fort.
Voilà, donc là, ce sont les décideurs qui nous écoutent, hein. Il faut prendre toutes les mesures possibles pour éviter la présence de perturbateurs endocriniens, que l'on trouve partout, hein, mais particulièrement dans les ustensiles de cuisine, dans les contenants finalement de tout ce qui est nourriture.
On les trouve aussi dans les sols en PVC, on les trouve dans les peintures, on les trouve dans nos bains bleus préfabriqués, on les trouve dans les cosmétiques, les produits d'hygiène, enfin, on les trouve partout. Donc ça, sur le site du réseau Environnement Santé, vous avez plusieurs plaquettes d'informations sur ça, pour bien voir où on les trouve. Et ensuite, on a sorti aussi un petit livret avec le conseil départemental du Tarn, donc sur ma maison sans perturbateur endocrinien, et qui explique avec des schémas très très explicites en fait où on peut les trouver et comment on peut ne pas les avoir dans notre environnement.
Alors, il y a les décideurs politiques, mais il y a aussi ceux qui décident au quotidien quand ils construisent un chantier. Je pense aux architectes. Est-ce qu'ils sont sensibles à ces questions-là? Est-ce que là aussi, il y a une prise de conscience ou pas?
Alors, c'est ce qu'on avait fait comme colloque à Albi, donc l'année dernière. C'était maladies infantiles, habitat et perturbateurs endocriniens. Et on avait eu 200 professionnels. Donc, ce qui est vraiment bien, des professionnels à la fois petite enfance, santé, mais aussi et surtout des professionnels de l'habitat. Donc, effectivement, les architectes sont prescripteurs, c'est-à-dire que c'est eux qui disent, voilà, on va utiliser tel et tel type de produit. Mais il y a aussi une décision politique, puisque quand on a un cahier des charges, on choisit ensuite aux commissions d'appel d'offres quels sont les projets qu'on va choisir. Et donc là, on peut tout à fait hiérarchiser les priorités par rapport à la présence de perturbateurs endocriniens. Donc on voit, comme je le dis souvent, que chacun a un petit bout de la solution. Pour ça, il faut être au courant. Il faut être au courant et se tenir au courant en permanence, parce qu'on a des études qui sortent en permanence, on a des lois qui changent, donc on voit avec les émissions qu'on fait qu'on a tout le temps un sujet, toutes les semaines on a un sujet. Donc je pense qu'il y a vraiment de la responsabilité de tous, et puis de se dire que ce n'est pas qu'une responsabilité individuelle quand on fait nos courses ou qu'on choisit notre papier peint ou nos ustensiles de cuisine. Il y a aussi cette responsabilité collective, à la fois des industriels, à la fois des politiques, et je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne tous que c'est une co-responsabilité entre individuel et collectif, et que ce n'est qu'ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses, parce que tout est lié.
Nathalie Ferrand-Lefranc, merci beaucoup.
Merci.